Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir un écrivain qui n'est pas souvent en France, mais qui, à la faveur d'une grande tournée en Europe, s'arrête brièvement à Paris. L'occasion pour moi de recevoir cet auteur cosmopolite, puisque né sur le continent africain, il a fait ses études en Belgique, puis a travaillé en Haïti et désormais est installé au Canada, dans la ville d'Ottawa, où il exerce aussi le métier de juriste. Bonjour Blaise Ndala.
Bonjour Catherine, bonjour à nos auditeurs et auditrices.
Vous avez à ce jour publié 3 romans, dont le dernier s'intitule « Dans le ventre du Congo », qui a paru simultanément aux éditions « Mémoire d'encrier » au Québec et aux éditions françaises du Seuil, un livre primé par le 13e prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression française et le prix Kuruma 2021 à Genève, en Suisse, un texte dont nous allons parler plus longuement un peu plus tard. Mais pour commencer, est-ce que vous voulez bien, Blaise Ndala, nous raconter la nature de ce grand déplacement en Europe ?
Alors, il s'agit à la fois de répondre à une série d'invitations qui m'avaient été lancées lorsque le livre est sorti aux éditions du Seuil en 2021, mais que je n'ai pas pu vraiment honorer à l'époque, à la fois parce qu'il y avait Covid qui gênait un certain nombre de déplacements à l'international, mais également il y avait un agenda très saturé que je devais conjuguer avec mes obligations professionnelles au Canada que vous avez mentionné tantôt. Alors là, donc, je reviens d'abord pour le musée des Terres Vuraines en Belgique qui célèbre cette année les 125 ans de son existence et les 5 ans depuis la réouverture. Vous savez, il y a une période où on a fermé le musée, c'était la période où j'ai quitté moi-même la Belgique, pour procéder à ce qu'on appelait un projet de décolonisation, carrément. Et donc là, pour marquer cette année particulière, vu que ce roman a un rapport très étroit avec le musée, à la fois par les thématiques que j'aborde, mais également, il faut le souligner, par le fait que le déclic pour écrire le livre, pour ramener ce récit qui a pour cadre Expo 58 à Bruxelles, eh bien, le déclic est parti du site de ce musée, chose que les organisateurs savaient. Et ensuite, Ostende, qui est très lié au personnage de Léopold II, le roi qui possédait l'État indépendant du Congo, autre territoire très présent dans le roman. Et enfin, le festival Plume d'Afrique à Tours, ici en France. Donc c'est pour toutes ces choses et pour terminer le roman en cours, le manuscrit sur lequel je travaille, que je me trouve à Paris.
Donc c'est un roman si fort que, en effet, 3 ans après sa publication, il est toujours l'objet de rencontres dans des salons et peut-être de nouvelles traductions ?
De nouvelles traductions, en effet. La plus récente est apparue en fait au Canada, hein, au Canada anglais et aux États-Unis, parce qu'il y a une double publication chez Other Press à New York, et puis parallèlement chez Simon & Schuster, Canada, pour l'édition canadienne. Et donc, ce sont ces deux éditions que je suis aussi en train d'accompagner. C'est pour cela d'ailleurs que la veille de mon arrivée en France et en Belgique, j'étais encore dans le nord de l'Ontario, dans un festival international littéraire à Sudbury, pour parler avec un public anglophone cette fois-ci de ce texte.
Alors, avant d'entrer dans ce roman, je vous propose, Blaise Ndala, de faire un peu mieux connaissance, parce que celles et ceux qui vous ont lu savent que vous êtes un passionné de musique, de football, de théâtre. Mais j'aimerais bien que vous nous en disiez un peu plus sur vous, vos origines, vos déplacements, votre entrée en littérature et puis votre défense des droits humains que vous pratiquez au quotidien à Ottawa aujourd'hui. Alors pour commencer, rappelons que vous êtes né dans un pays dont le nom n'existe plus aujourd'hui, le Zaïre. Est-ce que c'est un sentiment étrange de se réveiller dans un pays qui a changé de nom pour devenir la République démocratique du Congo, connue aussi comme le Congo-Kinshasa ?
Oui, quand même, dans la mesure où moi j'étais présent quand le retour à l'appellation Congo se réalise en 98 avec la chute de Mobutu, l'arrivée de ce qu'on appelait les Kadogo, les enfants soldats qui accompagnaient l'inénarrable Laurent Désiré Kabila. Je le vois encore avec sa tête toute nue. On a connu tout ça et donc du jour au lendemain, il fallait que le vocabulaire change, qu'on se souvienne qu'on n'était plus au Zaïre. Mais comme on avait tellement espéré que ce Zaïre puisse enfin partir, disparaître, que le diable l'emporte avec celui qui avait amené ce nom qui nous avait finalement été collé comme synonyme je sais pas, d'une régression incroyable. Alors, on avait hâte qu'une page se tourne. Donc, pour moi, pour des gens comme moi qui avons connu le mobutisme à son paroxysme à la fin des années 90, oui, c'était plutôt un bon débarras. Après, il a fallu s'adapter, effectivement, changer de pièce d'identité, retrouver sur nos passeports ce nouveau Congo qu'on embrassait avec beaucoup d'optimisme, même si, il faut le reconnaître, le lendemain, on a beaucoup déchanté depuis.
Vous avez un père qui était un grand lecteur, une mère passionnée de théâtre. C'est un bon terroir, ça, pour justement aimer la littérature. D'ailleurs, vous écrivez des poèmes en classe lorsque vous êtes enfant, Blaise Ndala.
Oui, ça, c'est une période où mon père s'absente, il n'est plus avec nous. Et puis ma mère qui sait que cette piqûre pour l'écriture, la littérature de manière générale, mais venait de mon père, même si elle-même, du fait qu'elle faisait partie d'une troupe des théâtres des enseignantes qu'on appelait les Perles Noires, m'est demandé de lui donner la réplique quand elle retenait ses textes et tout. Mais bon, il se trouve que ce jour-là, j'écris comme d'habitude des petits poèmes quand je ne veux pas du tout suivre le cours de calcul, les sons un peu rébarbatifs que je n'aime pas du tout. Donc, on la convoque pour lui dire, voilà, le petit, pendant qu'on enseigne, voilà ce qu'il fait, il écrit des poèmes à je ne sais quelle muse. Et donc ma mère m'appelle, lit le poème et constate effectivement que c'est un cas vraiment de flagrant délit poétique. Et là, elle me dit, ben, il ne faut pas faire cela. Je sais que tu as reçu un peu cette veine-là de ton père, mais ne le fais pas pendant les leçons. Par contre, ne n'arrête pas, parce que qui sait le jour où viendra peut-être où ton père entrera dans une librairie ou dans une bibliothèque, qu'il verra ton nom, qui est le sien, sur un livre. Elle le dit comme ça. Peut-être que ça lui donnera envie de revenir. Je savais que ma mère souffrait de cette séparation, de ce mari qui était parti sans rien dire, en fait, pendant plusieurs années. Et c'est quelque chose de très lancinant qui est resté dans ma tête. J'ai écrit longtemps, très jeune, avec cette idée un peu folle, un peu naïve, qu'en devenant auteur, peut-être que mon père reviendra. Et il est revenu beaucoup plus tôt que ça, avant que je ne finisse même mes études de droit. Mais oui, la piqûre, je pense que c'est venu de là.
Donc la littérature comme une bouteille à la mer.
Comme une bouteille à la mer pour un père absent, on peut le dire ainsi.
Vous aviez quel âge ?
Je devais avoir 11 ans à peu près.
Vous vous dirigez vers des études de juriste à Kinshasa dans un premier temps.
À l'université de Kinshasa, oui.
Et ensuite, Blaise Ndala, vous allez finir votre cursus en Belgique, pays colonisateur. Est-ce qu'il y a un sentiment d'étrangeté ?
Un sentiment d'étrangeté, de dépaysement. On arrive dans un pays qu'on croit connaître par la littérature, par la télévision et par tout un ensemble de médias. Mais c'est différent d'arriver là, de vivre l'hiver. Et on est dans une faculté de droit de l'homme. Donc je suis très, très sensible à tout ce qui se passe autour de moi et qui a trait avec la question des droits humains, le traitement de ce qu'on appelle aujourd'hui les migrants, les demandeurs d'asile. Et je lis avec assiduité les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme où je partirai dans un court stage à Strasbourg. Donc je découvre aussi une Europe plutôt violente hein, et qui n'est pas très loin sous certains égards à certaines choses qui sont liées justement à la période coloniale. Les discriminations, le rapport au corps noir, quand on descend d'un train et qu'on est directement happé comme ça par la police. Donc c'est des choses qui sont assez dérangeantes. Mais je découvre aussi un pays où il y a des gens qui sont très très accueillants. La preuve c'est que quand je quitte la Belgique, et que je publie mon deuxième roman, il est dédié quand même à un couple belge. Ça dit quelque chose.
Alors de fait, vous quittez la Belgique au bout de quelques années. Vous allez, dans un premier temps, me semble-t-il, vous installer à Montréal. Cela dit, Avocats sans frontières Canada vous offre aussi un poste en Haïti, Blaise Ndala. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience ?
Formidable, formidable. C'est les pays quand même de Jacques-Stéphane Alexis, c'est les pays de Daniela Ferrière, de Jacques Roumain et de tous ces grands écrivains qui m'ont fait rêver depuis ma jeunesse. Et je dis, mais je vais sauter dans ce bateau que je ne peux pas manquer. Et alors je vais là-bas, mais je me retrouve littéralement à Kinshasa. Je me retrouve au Congo. La cuisine, la musique, les ambiances, les odeurs, la rue, l'exubérance de la nature, sauf la mer. Au Congo, je n'avais pas eu la chance d'aller à la mer, mais je me sens mais vraiment chez moi. Et en plus, moi, j'ai l'occasion de me frotter à la faune littéraire locale. J'habite dans un quartier où il n'y a pas que des expatriés. Il y a un centre culturel, formidable que tous les Haïtiens et ceux qui ont visité Haïti connaissent. C'est FOCAL, la Fondation Connaissance et Liberté en créole. Et donc, c'est là, finalement, que je trouve mon autre refuge. Quand je ne suis pas dans les prisons haïtiennes à m'intéresser aux cas d'incarcération, de tensions préventives prolongées qui n'en finissent pas, pour essayer de trouver des solutions avec les avocats haïtiens et tous les militants et militantes des droits humains que je retrouve sur place, ben, je suis à Focal, je suis dans les librairies, je suis dans les festivals, j'écoute le compas et puis voilà, je me sens vraiment à la maison.
Et alors, dans toute cette vie éminemment riche et qui vous fait voyager d'un continent à l'autre, à quel moment, Blaise Ndala, l'écriture est-elle entrée dans votre vie ?
L'écriture a toujours été là, hein. Comme je l'ai dit, quand on retourne à ce poème de l'enfance, à ces exercices avec mon père qui m'est défié, qui dit « tu lis le tiers de ces livres ». Tu me donnes la suite, tu devines la suite. Qu'est-ce qui arrive selon toi à ce personnage pendant qu'il quitte sa ville? Et tu me le fais à l'écrit ou verbalement. Donc ça m'a poursuivi. Bon, après, quand j'ai embrassé les études de droit, force est de reconnaître que j'ai écrit très, très peu. Et puis après, quand je suis arrivé au Canada, et le réseau était très, très restreint. Ce n'était pas la Belgique, ce n'était pas Matongé à Bruxelles avec tout ce qu'il y avait de Congolais. Et donc, je me suis un peu replié vers moi-même. Les hivers sont rudes là-bas, on le sait. Et le refuge, tu le trouves où ? Ben, tu le trouves dans les livres, tu le trouves dans l'écriture, dans la lecture. C'est comme ça que c'est revenu de manière un peu plus formelle, un peu plus publique.
Et néanmoins, votre premier roman intitulé « J'irai danser sur la tombe de Senghor » paraît de mémoire en 2014.
14, oui.
Qu'est-ce qui fait que là, vous vous décidez vraiment d'écrire afin d'être publié, sachant que vous avez cette expression, vous dites que c'est un accident, voire une effraction.
Oui, je crois que le terme n'est pas usurpé, c'est presque par effraction. En fait, il y a quelqu'un qui me pousse dans le dos, et puis dans les mois qui suivent, je pense même pas les mois, 3 ou 4 semaines plus tard, me revient cette idée que j'avais un peu dans, quelque part dans ma tête de faire quelque chose du combat des boxes hein, entre Mohamed Ali et George Foreman, le fameux Rumble in the Jungle du 30 octobre 1974 à Kin, à l'époque du Zaïre, à l'époque de Mobutu. Et donc voilà, je sors pour aller voir un cousin qui habite le sud de la ville. Et là, pendant que je conduis, il y a une sorte de fulgurance. Je vois cette scène par laquelle le roman s'ouvre. Mohamed Ali qui sort des vestiaires du stade du 20 mai, comme on l'appelait. Et je dis, mais ça pourrait commencer comme ça. C'est ce texte, finalement, qui m'a fait rentrer dans l'arène, en quelque sorte.
Ce premier roman, donc, j'irai danser sur la tombe de Senghor. Et puis, arrive Sans capote ni Kalachnikov. Vous avez vraiment le sens des titres un peu provocants, Blaise Ndala. Et ce troisième roman dont je vous propose de parler dans un instant, on va faire une pause musicale. Il se trouve que dans le ventre du Congo est cité à plusieurs reprises Wando Kolosoy, ce grand chanteur de rumba décédé depuis, mais que l'on croise à plusieurs reprises dans votre récit. Est-ce que vous aimeriez qu'on écoute l'un de ses titres, peut-être Marie-Louise ?
Marie-Louise !
Voilà, qui est une des scènes musicales de ce roman. Marie-Louise alors ?
Marie-Louise.
C'est parti.
Marie-Louise. Marie-Louise. Na copa la terre, Louise, na côte il a yé bokilo lobi, Louise. Solo penzanga na copa la, Louise. Bokilo penanga na yo, delibala, ngai na yo, tolingani, ibala nangai na yo, mama Louise. Wapi Louise. Wendo yoko loba pampae Biso tozali na bakitare na biso Biso tozali na mingongo na biso Biso tozali na bafatiri na biso Toko kima na yenze la kinga buaye Solo pena yoki na kombo ya lolaka Oyo bako nze mbanga Mbako tunanga Wendo so Kataloke akobola agitare Marie Louise, Marie Louise, Fuga. Mm-hmm.
kondemba wendo wenda kimi biso kala kala e wenda komi kisanganie bebo yo mama leke sabilanga mama e akimi bowane na kati ya mbanda kae ekima kinga bo wendo ake eko makinga kisangani bebo yo ma mama leke sa wapi mutu kombo bowane Nana kuti bowe na katia mboko yo Anga iwendo Bowane Songa na njembela yo Ay bowane Mama e Bonjembela kangai Na kombo ya bowane Mama e.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Blaise Ndala, auteur entre plusieurs continents, on l'a dit dans la première partie de cette émission qui fait un peu le portrait de notre invité, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, et dont le dernier roman s'intitule « Dans le ventre du Congo », récompensé par le prix Ivoire et par le prix Kuruma 2021.
Pas pour vouloir en rejeter, mais un prix qui est assez récent et on l'oublie très souvent. C'est un prix qui a été créé au Sénégal et c'était la première édition. Donc, Dans les vents du Congo a aussi remporté le prix Cheikh Hamidou Kane de Dakar.
Ah, mais vous avez bien raison, en effet, de le signaler parce que Cheikh Hamidou Kane, on peut dire que c'est une belle référence littéraire qui vous honore.
Absolument.
C'est un récit donc qui s'articule autour d'un événement historique, la grande exposition universelle à Bruxelles en 1958, qui est racontée en amont et en aval par deux femmes, une tante et sa nièce, nous y reviendrons. Vous avez commencé de nous le dire au début de cet entretien, Blaise Ndala, que ce sujet vous a été inspiré, entre autres, par le musée Africa de Tervuren, qui d'ailleurs fête ses 125 ans cette année. Mais dites-nous-en un peu plus, dans quelle mesure ce musée-là vous donne-t-il l'idée, en effet, de vous consacrer à cette exposition universelle de 1958?
Alors, c'est qui se passe que j'arrive en septembre 2003 en Belgique, et puis quelques mois après, on est au printemps 2024, une bonne amie à moi qui vit à Liège me propose d'aller visiter ce musée dont on parle tant, et donc je dis oui, pourquoi pas, nous faisons le tour du musée, je suis pas très très impressionné, j'ai l'impression de retourner, je sais pas, 100 ans, 80 ans en arrière, mais je suis ravi quand même de trouver un certain nombre d'artefacts qui convoquent la culture, l'art congolais dans sa diversité. Et à la fin, elle me demande, mais sais-tu qu'à quelques encablures d'ici, il y a un mémorial méconnu que devraient visiter tous les Africains, en particulier les Congolais. Je dis, mais de quoi tu parles? Il dit, viens, suis-moi, tu vas être impressionné. Et donc là, dans les parcs près de l'église évangéliste, qui est tout près du musée, se trouve cette tombe où on avait enseveli des Congolais qui avaient été ramenés de la colonie en 1897 à l'occasion de l'exposition coloniale universelle de cette époque-là et qui, exposés à des intempéries, sont tombés malades, sont décédés. Et puis on les a enterrés dans une sorte de fosse commune avant d'être repris et puis on leur donne ce semblant de sépulture. Et donc moi, je suis sidéré, mais je suis surtout effaré par l'ignorance dans laquelle j'ai grandi. Je dis, c'est pas possible, je suis quand même quelqu'un de très bien informé. Je suis presque incollable sur la guerre du Cameroun, toutes ces choses-là. Comment se fait-il que je ne sache pas qu'il y a eu un zoo humain en 1897 dans lequel se retrouvaient des Congolais? D'autant plus qu'en regardant les noms qui sont accolés sur ces tombes, il y a une des femmes, parce qu'il y a trois femmes et quatre hommes, et une des femmes s'appelle Pemba. Et Pemba, c'est le nom de la sœur aînée à ma mère, Gertrude. Et je dis, mais ça aurait pu être ma grand-mère, ça aurait pu être un de mes ancêtres. Et là, je commence à m'informer. Je retourne à Louvain-la-Neuve, je demande à des jeunes étudiants belges qui sont avec moi dans le programme, et même à des professeurs de l'UCL, dont certains ne savent pas qu'il y avait des zoos humains. Mais c'est un de mes profs, qui plus tard deviendra le représentant des Nations Unies pour les droits à l'alimentation, le professeur Olivier Descouteur, qui m'apprend qu'en fait, Blaise, l'expo et le zoo humain le plus récent, ce n'est pas celui des 97, c'était deux ans avant l'indépendance de ton pays. Donc là, il me parle du village congolais, entre guillemets, du parc des Isels en 58. Et c'est comme ça que je me dis, il faut que je fasse quelque chose de cette histoire sur le plan littéraire. Parce que si les gens de ma génération ne connaissent pas cette histoire, ne l'ont même pas appris dans l'école, dans leur programme scolaire, ça illustre l'étendue de la méconnaissance de ce sujet. Et d'autant plus le risque que des comportements qui sont liés à ce type de déshumanisation des indigènes de l'époque se perpétuent à notre époque sans qu'on fasse le lien avec la matrice de laquelle elles sont l'émanation. Donc le projet me prendra une dizaine d'années parce qu'entre-temps, comme vous le voyez, j'aurai publié deux livres jusqu'à ce que la distance nécessaire soit constatée et que je me lance enfin à l'écriture de ce livre.
Et c'est ainsi donc que vous racontez à la fois comment 2 ans, en effet, avant l'indépendance du Congo, a lieu cette exposition universelle à Bruxelles avec donc l'idée d'un village congolais où on fait venir de force donc des personnes extraites de leur pays. Pourquoi ? Pour donner un semblant de vie. Et en effet, c'est un véritable zoo humain où ces personnes sont considérés pas du tout comme des êtres humains.
Pas du tout comme des êtres humains. En fait, l'idée, c'est de démontrer en chair et en os ce que Tintin en Congo raconte. C'est-à-dire que quand on a un oncle ou une tante qui nous dit « Nous sommes là-bas pour apporter la civilisation à ces pauvres noirs qui s'inclinent devant des morceaux de bois, hein, comme on le voit dans Tintin en Congo », il ne s'agit pas d'une mythologie, on n'est pas dans la fable, on est devant une situation réelle. La preuve, venez les voir avec leurs dents taillées. Là, on pense à des pygmées, par exemple, qui ont cette espèce de... En tout cas, pour qui ces pratiques font partie d'une certaine esthétique, c'est des côtes de beauté, mais qu'on va essentialiser, et puis on offre ces gens-là en pâture à la curiosité de pèlerins, comme on les appelait. Donc on montre ce que la mission civilisatrice a été, de tirer de la jungle, de la sauvagerie, ces hommes, et de les amener au stade que vous pouvez constater, parce qu'ils sont habillés, mais on peut aussi les retrouver dans l'état de nature presque, hein, pour parler un peu comme Hobbes. Et donc on fait ce cirque-là. On ne traverse pas les mers pour aller voir le sauvage, pour aller voir l'anthropophage. Alors ces gens, ils se font de l'argent, les cinémas n'existent pas, ils ramènent ces spécimens pour... l'offrir à l'Européen lambda, l'impressionner et lui faire voir que voilà, il est au sommet de la civilisation et qu'il existe de l'autre côté du monde des sauvages radicaux, jusqu'à ce que le cinéma arrive en fait et que ça ne soit plus nécessaire d'aller chercher le sauvage en chair et en os, mais qu'on peut l'inventer et le regarder de chez soi.
C'est donc la tragique expérience que va connaître une jeune fille, Nyota, une jeune princesse qui, suite à des amours un peu malheureuses, va être punie et enlevée par un collectionneur et arriver à Bruxelles et mourir assez vite dans des conditions mystérieuses. Mais juste avant, vous écrivez une scène, Blaise Ndala, où elle fait la connaissance de Patrice Lumumba juste avant de quitter son pays. Et elle va d'ailleurs le retrouver à Bruxelles, alors que lui-même sera assassiné 3 ans plus tard. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez écrire là, la rencontre de 2 résistants, de 2 figures héroïques c'est ce que vous mettez en scène?
Ah voilà, exactement, là, vous mettez le doigt dessus. Donc 2 figures héroïques, celle de Lumumba, la plus connue, qui est indissociable avec l'histoire du Congo et avec l'épopée qui culmine jusqu'à l'indépendance, comme je le rappelais encore au stand il y a 2-3 jours. Et puis une figure presque anonyme, même si cette fille, Tchala, cette princesse, vient d'un de plus illustre royaume du Congo précolonial, le royaume Kuba, mais c'est la figure féminine, c'est celle qu'on ne met presque jamais en avant quand on parle de cette époque lointaine, que l'on convoque les affres, tous les abus dont les hommes de Léopold II se sont rendus coupables avec la coupe de main, tout ça. À l'époque, on ne mentionne pas les femmes, on mentionne les hommes qui vont chercher le caoutchouc dans la forêt, qui sont embrigadés dans la force publique, qui vont sur les chantiers, le chemin de fer et consorts. Mais les femmes payent un lourd tribut derrière. Et c'est elles qu'on viole, c'est elles que l'on domine. Quand l'homme est parti, elles ont toute la charge de parfois d'une famille, tout un clan. Mais c'est des voix que je ne retrouve pas dans toutes les formes d'hommages qu'on rend aux femmes. Jusqu'à la femme de Lumumba, Pauline, qui est pourtant une figure militante centrale dans la lutte pour l'indépendance. Donc c'était un peu pour rendre justice à cette part qu'on a tue dans cette lutte-là, que j'ai voulu que Lumumba soit placé sur la route de la princesse T'Challa, aussi bien au pays qu'ici, en métropole, lorsque Expo 58 nous livre ce que le projet colonial pouvait avoir d'avilissant.
Néanmoins, votre roman est un roman de la réconciliation, on le voit bien, entre le passé et le présent, qui regarde vers l'avenir. C'est aussi un aller-retour hein, entre le Congo et la Belgique, puisqu'on a deux lettres qui se répondent, et puis on voit la petite nièce qui rentre, elle aussi. Quel est votre lien avec la RDC aujourd'hui, vous, Blaise Ndala, vous y retournez ?
J'y étais au mois de juillet pour aller parler pour la première fois justement de Dans le ventre du Congo. J'avais reçu beaucoup d'invitations. Encore une fois, le temps ne m'avait pas permis d'y aller plus tôt. Donc je suis allé au mois de juillet pour la petite anecdote. Je devais y aller avec ma petite famille, donc ma conjointe qui est canadienne d'origine et mon enfant qui est né il y a 3 ans. Il se trouve que l'ambassade de la RDC à Ottawa ne nous a pas donné de visa, hein, parce que je suis naturalisé canadien depuis quelque temps. C'est complexe, ces choses-là.
Vous n'avez plus la nationalité congolaise ?
Non, parce que la loi congolaise ne permet pas la binationalité. Mais bon, ça, c'est un détail purement juridique. Rien ne m'enlève ma congolité. Je suis congolais, je suis foncièrement congolais. Mais bon, techniquement, j'aurais pu ne pas m'y rendre. Et donc, ma conjointe et l'enfant ne sont pas partis. Mais je suis allé à Kin, j'étais très heureux de parler de ces livres aux Congolais et aussi de leur montrer par ce genre de contradictions comment nous n'étions peut-être pas conscients de ce que l'histoire pouvait être comme miroir et peut-être nous enseigner pour l'avenir.
Et ce qu'il faut rappeler aussi, Blaise Ndala, c'est que ce livre, comme les précédents, où vous allez me détromper, est disponible aussi sur le continent africain via des coéditions, c'est cela ?
C'est ça. Donc le livre a été édité après la France au seuil, le Canada Mémoire d'Encrier, par les éditions Vallès en Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais vraiment, que l'on donne à un éditeur africain la possibilité de travailler avec ce texte-là et de peut-être de le rendre disponible à des conditions beaucoup plus abordables que pour le livre qui vient de Paris. Et en l'occurrence, le livre, quand il est vendu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on l'achète à 5000 francs CFA. On me disait que c'est quelque chose comme 7 dollars et quelques, alors qu'ici, à Paris, il doit se vendre autour de 22, 25 dollars peut-être. Je parle toujours en dollars. Hein.
Oui, alors, je dirais une vingtaine d'euros, oui,
c'est ça. Une vingtaine d'euros. Donc, c'était dans cet esprit-là. Après, ce n'est pas si simple, parce que la question de la distribution, c'est une autre réalité que je découvre. Je la soupçonnais, mais je l'ai découverte à l'épreuve de cette publication. Pour que les livres quittent l'Afrique de l'Ouest et arrivent à Kinshasa et à Brazzaville, c'est un peu la croix et la bannière. Mais on y travaille, parce que si on ne commence pas ce travail-là, ben, ça ne se fera jamais.
Merci beaucoup. En tout cas, ce que je vois, Blaise Ndala, c'est que comme vous qui êtes sur plusieurs continents, vos livres aussi sont donc disponibles sur plusieurs continents, aux éditions Mémoire d'Encrier au Canada, aux éditions du Seuil en France et dans cette maison d'édition en Côte d'Ivoire.
Pour les éditions en langue française, sinon on est aux États-Unis avec Other Press pour l'édition en langue anglaise et on espère donner la possibilité à d'autres territoires de lire ce livre et d'autres qui sont aussi en traduction partout où les gens sont passionnés comme nous par ce que l'imaginaire peut nous apporter.
Merci beaucoup Blaise Ndala pour cette rencontre exceptionnelle. Et je rappelle donc que Dans le ventre du Congo en France est disponible aux éditions du Seuil.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.